RCF.
Frère Rémi Valéjo, quand on évoque les lumières médiévales, c'est vrai qu'on pense souvent à ce siècle comme étant plutôt un siècle obscur, et Maître Eckhart évolue au contraire dans un environnement qui est plutôt celui d'une révolution, de changement, de ces femmes béguines, on l'évoquait, qui sont plutôt dérangeantes. La parole de Maître Eckhart dans ce siècle, dans ce 14e siècle, qui est aussi celui du siècle de la peste noire, 1348, c'est laquelle ?
Maître Eckhart est un homme du XIIIe siècle, il meurt en 1328, il n'a pas connu la peste noire. Mais en revanche, sa parole va être pertinente pendant tout ce XIVe siècle, marqué par la peste noire, marqué par des dissensions politiques, marqué par des fléaux naturels et des situations ecclésiales qui détruisent la chrétienté, ou tout au moins déchirent le tissu de la chrétienté durablement. Parce que ce que l'on connaît au XVIe siècle commence au XIVe siècle et se poursuit au XVe siècle. En revanche, donc je disais, la parole de Maître Eckhart va être particulièrement pertinente au XIVe siècle, grâce à ses disciples comme Jean Tolère. Certes, Maître Eckhart subit un procès en inquisition, mais sa parole va poursuivre son chemin grâce à des disciples comme Jean Tolère, qui s'adresse à des hommes et des femmes qui vont subir de plein fouet ce siècle de la peste noire. Et ce chemin d'intériorité, ce chemin de lieu fort en soi, ce lieu de l'âme qui est un lieu d'inviolabilité où rien ne peut faire violence, va aider ces hommes et ces femmes à traverser les difficultés de leur siècle. Un temps de crise à nul autre pareil, mais soit dit en passant, des temps de crise, tous les siècles en traversent.
Oui, c'est le cas du nôtre.
Comme le nôtre, mais sachant que le XVIe siècle aussi est un siècle donc de crise. Je disais que le XIVe siècle a engendré ce qui va exploser au XVIe en déchirant le tissu de la chrétienté. Or, au XVIe siècle, autant du côté de la réforme que du côté de la contre-réforme, on va se nourrir de la parole de Maître Eckhart via Jean Tolère, puisqu'on ne connaît pas Maître Eckhart dans le texte, mais on connaît la parole de Maître Eckhart à travers la parole de son disciple Jean Tolère, et des gens aussi divers que Martin Luther, que Pierre Canisius, le grand saint jésuite fondateur des universités catholiques dans toute l'Allemagne, mais aussi des figures comme Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila en Espagne, vont se nourrir de cette parole et de ce propos.
Qu'ils vont en garder, en fin de compte ?
Qu'est-ce qu'ils vont en garder ? Ils vont en garder, effectivement, différentes réalités. Pour Martin Luther, quand il fait son introduction à la théologie germanique, qui est un petit ouvrage du XIVe siècle, écrit par un disciple de Maître Eckhart, et qu'on prête à Jean Tolère, Martin Luther dit en 1516 que pour lui, ce petit livre est important, parce que pour lui, Jean Tolère est aussi important que Saint Augustin et Saint Paul. C'est quand même pas rien de la part de Martin Luther. Et je vous cite le texte littéralement, aussi important que Saint Augustin et Saint Paul. Parce que, effectivement, dans cette mystique rhénane, chez Jean Tolère et cette mystique rhénane, Martin Luther trouve l'essence de sa théologie de la grâce, hein, de cette grâce fluente de Dieu en tout homme, telle que la prêche Maître Eckhart. Martin Luther la retrouve dans ce type de pensée. Donc avec Martin Luther, on est dans la fibre protestante de l'héritage des mystiques renans. Mais il y a une fibre catholique très affirmée avec, comme je vous l'ai dit, Pierre Canisius, qui avec deux autres amis qui s'appellent Nicolas Escus et Laurent Surius à Cologne, estiment en 1543, donc deux décennies après Martin Luther, estime que pour une réforme de l'Église, il faut une réforme de la société. Et pour qu'il y ait une réforme de la société, il faut qu'il y ait une réforme de l'homme intérieur. Or, ils estiment que celui qui est le plus à même de proposer cette réforme intérieure, c'est Jean Tolère, héritier de la parole de Maître Eckhart. Ils traduisent en latin les écrits allemands de Jean Tolère, et sans le savoir, ils font passer des écrits de Maître Eckhart, qui vont se diffuser dans toute l'Europe, tant et si bien qu'en Espagne, en 1548, ces ouvrages arrivent jusqu'à Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Jean de la Croix les lit en latin, mais Thérèse d'Avila les lit en en espagnol, parce que ces ouvrages sont déjà traduits en espagnol la même année, en 1548. Et donc, quand Jean de la Croix parle de la nuit obscure, quand Jean de la Croix parle de la vive flamme, finalement, il résonne et consonne parfaitement avec l'étincelle de l'âme de Maître Eckhart. Quand la madre Thérèse d'Avila dit « nada, rien », eh bien, c'est le nicht, c'est le nirt, c'est le néant de Maître Eckhart. Et quand elle prône « solo Dio », Solo Dio, eh bien, c'est la traduction de Solus Deus en latin, qui est la traduction de Gott Ein, Dieu un, de Maître Eckhart et de Jean Tolère. Donc, ces mystiques qui ont vécu une véritable nuit de la foi, n'oublions pas que Jean de la Croix a été emprisonné par ses propres frères, parce qu'accusé plus ou moins d'être hétérodoxe. Thérèse d'Avila, qui était suspectée d'être une alumbrados, elle-même hétérodoxe, ont vécu des nuits de la foi et de véritables crises singulières. On a évoqué des crises de la société, des crises de la chrétienté, mais il y a des crises singulières d'hommes et de femmes qui traversent des adversités. Or, qu'on soit au XVe, au XVIe et même au XVIIe siècle et voire au XXe siècle avec Hetty Hillsum, cette jeune juive internée au camp de transit de Westerbork, le Drancy des Pays-Bas, avant d'être amenée jusqu'à Auschwitz où elle est assassinée en 1943, à Westerbork, Hetty Hillsum lit les sermons de Maître Eckhart. On le sait d'après ses carnets. Or, précisément, elle exprime quelque chose de très proche de Maître Eckhart quand elle dit « Dieu, tu ne peux absolument rien faire de la situation où nous sommes, mais je vais tout faire pour que tu ne t'éteignes pas en moi. » On retrouve les intuitions profondes de ce lieu dans l'âme, cette intériorité, ce lieu d'inviolabilité où j'accueille Dieu tel qu'il est, cette lumière, cette étincelle de l'âme, cette étincelle de vie qui me donne d'être un vivant. Donc, incidemment, cette parole de Maître Eckhart, elle répond à des temps de crise, à des hommes et des femmes pour traverser l'adversité qu'ils sont appelés à se confronter.
C'est une parole pertinente pour toutes ces crises, finalement. Frère Rémi Valégeot, je voudrais savoir si parmi les phrases, parmi les textes que vous avez lus de Maître Eckhart, les sermons notamment, est-ce qu'il y en a une qui vous touche particulièrement ?
Si vous me permettez, il y en a deux. Tout ce que le Seigneur a fait, il ne l'a fait que pour être avec nous et pour que nous soyons un avec lui. Tout ce que le Seigneur a fait, il l'a fait pour être avec nous afin que nous soyons un avec lui. Et l'autre phrase qui me touche beaucoup, c'est celle du sermon 12. L'œil dans lequel je vois Dieu, c'est l'œil dans lequel Dieu me voit. C'est un seul et même œil. Un seul et même regard, une seule et même connaissance, un seul et même amour. Alors on pourrait s'étonner.
Comment vous la prenez cette deuxième phrase ? Comment est-ce que vous la comprenez cette deuxième phrase ?
Eh bien, elle se comprend à la lecture de saint Paul. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, après l'hymne à la charité, dit « Actuellement, nous voyons en énigme, comme dans un miroir. Mais alors ce sera le face à face, et je connaîtrai tel que je suis connu. » Je verrai tel que je suis vu. Et Maître Eckhart, sur les pas de saint Paul, nous invite effectivement à cette face-à-face avec Dieu, dans un ici et maintenant, c'est-à-dire une présence à soi, là où Dieu est présent totalement à moi. Ici et maintenant.
On va écouter « Réduit à rien », les derniers jours de Maître Eckhart, lu par Frédéric Folcher.
Les cloches sonnent encore. Le maître n'en connaît pas le timbre. Il désespère d'ailleurs de ne rien savoir de ces lieux où tout lui demeure étranger, insolite et singulier. Tout autour de lui se dérobe par étrangeté et par défaut d'empathie, disparaît plus cruellement encore du champ de sa pensée. Depuis les jours qui ont suivi son départ de Cologne puis de Strasbourg et de Bâle, laissant derrière lui les méandres du Rhin, il ne trouve nulle part le chez-soi, qu'un exilé jeté hors de chez lui, chassé de sa propre terre d'humanité et dès lors de lui-même, désespère de ne jamais trouver. C'est un chemin d'errance et plus encore une errance sans chemin, où le maître n'a pour seul lieu de repos tangible que ce qu'il sait du fond et de l'intime de son être, un lieu dans l'âme où rien ne fait violence, quand au gré d'un consentement, Dieu y accomplit son œuvre divine. Par réminiscence, sa prédication, par bribes de traités et de serments, l'exhorte à consentir, bien qu'à dire vrai, elle est une écharde plantée dans sa chair et qui incessamment le fait souffrir. Qu'un homme ait une vie paisible, c'est bien. Qu'un homme supporte une vie pénible avec patience, c'est mieux. Mais qu'on ait la paix dans une vie pénible, c'est le mieux. Qu'un homme aille au champ, y dise sa prière et connaisse Dieu, ou qu'il soit à l'église et connaisse Dieu, s'il connaît Dieu davantage parce qu'il est dans un lieu tranquille, comme ce lieu l'est d'habitude, la cause en est sa faiblesse, non pas Dieu. Car Dieu est le même en toute chose, en tout lieu. Et il est prêt à se donner également dans la mesure où cela dépend de lui. Et celui-là connaît Dieu, justement, qui le reconnaît de manière égale.
Voilà, c'était un extrait de Réduit à rien les derniers jours de Maître Eckhart. Merci, frère Rémi Valéjeau. Vous êtes l'auteur de ce livre, vous êtes dominicain à Lille et vous nous avez fait découvrir toute cette semaine un autre dominicain, ce Maître Eckhart, qui n'a plus de secret ou presque pour nous. En tout cas, toute sa spiritualité respire à travers cet ouvrage que vous avez rédigé et elle est à découvrir dans ce roman mystique. Merci beaucoup, frère Rémi.